أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Après-demain, nous serons le 23 mars. Le 23 mars est un jour qui revêt une grande importance dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. En effet, le 23 mars 1889, le Messie premier des Salam a posé les bases de la communauté en initiant le serment d'allégeance. Sa mission s'est réalisée conformément à la promesse d'Allah et aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, l'islam traversait une période de grande instabilité. D'ailleurs, aujourd'hui encore, la situation religieuse des musulmans est déplorable. Sur le plan politique et matériel également, leur condition est extrêmement critique, bien que de nombreux pays musulmans soient riches, notamment grâce aux ressources pétrolières. Cependant, leur importance et leur prestige se sont totalement effondrés. Quoi qu'il en soit, lorsque le Messie premier des Salam a initié le serment d'allégeance, il était profondément attristé par l'état de l'islam. Son cœur saignait de douleur en voyant les nombreuses attaques incessantes dirigées contre cette religion par les adeptes d'autres confessions, en particulier par les chrétiens. À cette époque, personne ne se levait pour défendre l'islam. Même les érudits musulmans étaient paralysés par la peur, au point que des centaines de milliers de musulmans abandonnaient leur foi pour embrasser le christianisme. Face à cette situation critique des musulmans et aux attaques incessantes contre l'islam, seul Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian s'est levé sur l'ordre d'Allah pour défendre l'islam. Il s'est battu en tant que champion de la foi, remplissant ainsi son rôle. Il a répondu aux attaques des diverses religions présentes en Inde à cette époque, telles que l'Arya Samaj, le Brahmo Samaj, le christianisme, ainsi que d'autres athées et d'autres détracteurs de l'islam, et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lançaient des offensives redoutables à travers leurs écrits et leurs discours. Avant même d'initier le serment d'allégeance, il a ressenti une profonde douleur face à cette situation, et il a écrit une œuvre magistrale, voire plusieurs ouvrages, connus sous le nom de Brahin Ahmadiyya. Initialement, cette œuvre comprenait 4 volumes. Dans ses écrits, il a apporté des réponses percutantes aux ennemis et aux opposants de l'islam. « Le premier volume du Brahin Ahmadiyya a été publié en 1880. Ensuite, en 1882, et les autres volumes ont été publiés en 1884. Dans ses ouvrages, le Messie premier des Salam a exposé des preuves irréfutables démontrant que le Saint-Coran est la parole divine et une œuvre inégalée. Et il a également prouvé de manière indéniable que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, était véridique et qu'il était le dernier des prophètes. En outre, il a mis au défi quiconque de réfuter ses preuves, déclarant que si quelqu'un parvenait à fournir ne serait-ce qu'un tiers, un quart ou même un cinquième d'arguments équivalents pour contredire ses démonstrations, il lui offrirait une récompense de 10 000 roupies. À cette époque, 10 000 roupies représentaient une somme considérable. Quoi qu'il en soit, lorsque le Messie premier des Salam a fait cette annonce et il a publié ses ouvrages, cela a redonné du courage aux musulmans. Ils ont réalisé alors que l'islam était une religion forte, que l'islam était la dernière religion divine et qu'ils n'avaient aucune raison d'avoir peur ou de se sentir menacés. À cette époque, de nombreux musulmans et même des érudits louèrent grandement le Messie premier des Salam. Certains, impressionnés par son engagement en faveur de l'islam, lui demandèrent même de prendre leur serment d'allégeance. Cependant, comme il n'avait pas encore reçu l'ordre de Dieu, il refusa de le faire à ce moment-là. Ce n'est que lorsqu'il reçut un commandement explicite d'Allah qu'il initia le serment d'allégeance, marquant ainsi le début d'une communauté de croyants sincères. Par la suite, Allah lui révéla également d'annoncer qu'il était le Messie promis et l'imam attendu. Avant d'initier officiellement le serment d'allégeance, le Messie premier des Salam avait fait une annonce importante en décembre 1888 sous le titre de Tablir. Il déclara dans cette annonce que j'adresse ici un autre message à l'ensemble de l'humanité et en particulier à mes frères musulmans. J'ai reçu l'ordre divin selon lequel ceux qui recherchent la vérité et qui souhaitent apprendre la véritable foi ainsi que la pureté spirituelle et l'amour sincère de Dieu, ces personnes qui désirent se libérer des mauvaises habitudes, de l'indolence et de la trahison doivent venir à moi et me prêter allégeance. Ainsi, ceux qui ressentent en eux une certaine force spirituelle doivent venir vers moi, car je serai leur bienfaiteur et je tenterai d'alléger leur fardeau. Dieu accordera sa bénédiction à mes prières et à mon attention portée sur eux, à condition qu'ils soient sincèrement prêts à suivre les exigences spirituelles. Ceci est un ordre divin que j'ai transmis. J'ai reçu à ce sujet une révélation en arabe. Iza azamta fatawakkal ala Allah wasna'il fulka bi'ayunina wahyina alladhina yubayyunaka innama yubayyun Allah yadullaha fawka aydihim. Cette révélation signifie: lorsque tu as pris cette décision pour ce service, place ta confiance en Allah et construis cette arche sous nos yeux et selon notre révélation. Ceux qui prêteront allégeance entre tes mains, en réalité, ne prêtent pas allégeance à toi, mais à Allah. C'est la main de Dieu qui se trouve au-dessus de leurs mains. Allah a également manifesté des signes célestes et terrestres en faveur du Messie premier l'Islam. Parmi ces signes célestes, l'un des plus remarquables était l'éclipse lunaire et solaire, un phénomène spécifique qui, selon le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, devait apparaître comme un signe distinctif de l'imam Al-Mahdi. Ce signe exceptionnel devait se produire pendant le mois de Ramadan à des dates précises. Conformément à cette prophétie, les éclipses eurent lieu en 1894 à l'est et en 1895 à l'ouest. Et de nombreuses personnes dotées d'une nature pure furent témoins de ce phénomène et reconnaissant la véracité de ce signe acceptèrent le Messie promis des Salam. Il convient de noter que des éclipses lunaires et solaires se produisent également durant ce Ramadan. Une éclipse lunaire a déjà eu lieu et une éclipse solaire est prévue aux mêmes dates prophétisées. Il est possible que ces phénomènes se répètent dans l'avenir. Toutefois, les éclipses qui ont lieu à l'époque du Messie promet d'Islam possèdent une signification unique, car ces éclipses se sont manifestées après sa déclaration de mission et en réponse à une supplication qu'il avait adressée à Dieu pour un signe distinctif. Certains Ahmadis considèrent également les éclipses actuelles comme des signes divins, mais seul Allah en connaît la véritable signification. Quoi qu'il en soit, si l'on doit considérer ces éclipses comme des signes, elles s'inscrivent dans la continuité d'un phénomène qui a commencé après la déclaration de mission du Messie promet d'Islam il y a 135 à 136 ans. Toutefois, il est important de noter que les éclipses de son époque se sont produites à l'est et à l'ouest, tandis que les éclipses de cette année sont principalement visibles en Occident. C'est pourquoi on ne peut pas attribuer aux éclipses actuelles la même importance que celles survenues du vivant du Messie promet l'Islam. De plus, l'éclipse actuelle couvrira seulement environ 25 à 30% du disque solaire, tandis que dans son époque, l'éclipse solaire avait recouvert entre 75 à 100% du Soleil. Lorsque cette éclipse exceptionnelle débuta à apparaître à son époque, le Messie promet l'Islam a déclaré: Nous avons vu ce signe, mais les opposants ne seront pas affectés par ce signe. Ensuite, progressivement, l'éclipse s'intensifia et atteignit son apogée avec l'éclipse solaire. J'ai mentionné ces faits ici en passant. Le 12 janvier 1889, le Messie promet l'Islam publia une annonce sous le titre Takmil Etablir, dans laquelle il énonça les 10 conditions du serment d'allégeance. Comme nous le savons, ces 10 conditions sont essentielles pour être membre de la communauté Ahmadiyya. Un Ahmadi doit non seulement les accepter de tout son cœur, mais doit aussi s'efforcer de les mettre en pratique tout au long de sa vie. Ces conditions incluent notamment le fait que l'initié évitera le polythéisme toute sa vie. Il promet aussi de s'abstenir du mensonge, de l'adultère, de la débauche, de l'injustice, de la trahison, de la corruption et de la rébellion. Il ne se laissera pas dominer par des émotions négatives lors des épreuves, quelle que soit l'intensité de ces émotions. L'initié accordera aussi une attention particulière à la salat et s'efforcera d'accomplir la salat de la meilleure manière possible conformément au commandement d'Allah et de son messager. Il s'efforcera d'accomplir la prière de Tahajjud et de rechercher le pardon de Dieu et accomplir l'istighfar. Il ne causera aucun tort injustifié à un être humain, ni par la parole, ni par les actes. Il sera fidèle à Dieu en toutes circonstances et il se soumettra à sa volonté. Il promet également d'appliquer pleinement l'autorité du Saint-Coran toute sa vie en recherchant et en suivant ses enseignements, et il évitera tous les interdits du Saint-Coran. Et il adoptera comme principe fondamental l'obéissance totale à Dieu et à son messager. L'initié s'efforcera d'adopter l'humilité, la modestie, la douceur et la patience, tout en évitant l'orgueil et l'arrogance. Il considérera l'honneur de la foi et le service de l'humanité comme plus précieux que sa propre vie et ses biens. Et il cherchera toujours à apporter du bien à l'humanité dans la mesure de ses capacités et dans la mesure de ses forces. Et il restera fidèle au serment d'allégeance jusqu'à son dernier souffle, et il suivra toutes les instructions ma'roufs du Messie promet l'Islam, conforme aux enseignements de la charia. De prime abord, le Messie promet l'Islam n'émettra pas d'ordre contraire à la charia. Le Messie promet l'Islam n'avait reçu la mission que de répandre et défendre l'Islam tel qu'enseigné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'initié s'engage à établir un lien avec le Messie promet l'Islam qui sera plus fort que n'importe quel lien terrestre. Voilà donc un résumé des 10 conditions du serment d'allégeance. De nombreux croyants sincères ont prêté serment d'allégeance sur ces conditions, et jusqu'aujourd'hui, nous en faisons de même. Toutefois, nous devons nous interroger à ce propos. Mettons-nous réellement ces engagements en pratique? Ceci est un rappel. C'est grâce à la faveur d'Allah que la communauté Ahmadiyya compte un grand nombre de fidèles sincères qui s'efforcent d'appliquer ces principes Ils sont toujours prêts à sacrifier leur vie, leur bien, leur temps et leur honneur pour la cause de la foi et à œuvrer sans relâche pour établir la grandeur de la foi et propager le message de l'islam à travers le monde. Ils s'efforcent de suivre fidèlement les instructions du Messie premier d'Islam en matière de prédication de l'islam. Ils s'efforcent également à mener à son apogée leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour intense du Messie premier d'Islam pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est magnifiquement illustré par l'un de ses écrits en ces termes. Le Messie premier d'Islam déclare à ce propos: Je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie dont le nom est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. De milliers de salutations de paix soient sur lui, l'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de juger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité divine perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et sur tous ses successeurs. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Il est la source de toute grâce. Celui qui prétend à quelque excellence sans accepter sa prééminence n'est pas un être humain. C'est-à-dire celui qui s'arroge quelque vertu sans l'intermédiaire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'est pas un être humain. Car la clé de toute grâce et le trésor du savoir a été remis au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Messie premier d'Islam a expliqué en de nombreux écrits le statut du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il déclare « Celui qui, grâce à sa personne, ses attributs, ses œuvres, ses facultés spirituelles et sanctifiantes, a servi de modèle parfait dans le domaine du savoir, de la conduite, de la sincérité et de la constance. En somme, celui qui est l'homme parfait n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est le prophète parfait, porteur de bénédictions, manifestation du premier jugement ici-bas, en ranimant l'humanité moribonde, et en augurant la renaissance spirituelle, ce messager béni, le sceau des prophètes, le commandant des vertueux, la fierté des prophètes et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu, paix soit sur lui. Ô notre Seigneur, envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions, grâces et bénédictions que tu n'as accordées à personne d'autre depuis la création de ce monde. Cet amour intense pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui fut la raison pour laquelle Allah le Tout-Puissant envoya le Messie premier d'Islam avec la mission de restaurer la grandeur de l'Islam. Allah lui a dit « En raison de cet amour et de cette affection, je t'accorde également ce statut, tu es le Messie promis et le Mahdi guidé, et annonce cela au monde ». Et quant à la promesse d'une renaissance de l'islam en ces derniers temps, Allah a déclaré « Je vais réaliser cette promesse de renaissance de l'islam et je te confie cette tâche à toi ». Ce sont donc les missions pour lesquelles le Messie premier d'Islam a été envoyé et il s'en est acquitté avec brio. Le Messie premier d'Islam exhorta sa communauté en ces termes. Maintenant que vous m'avez prêté le serment d'allégeance, souvenez-vous également qu'Allah le Tout-Puissant a déclaré qu'il y aura avec le Messie premier d'Islam des personnes semblables aux compagnons. Par conséquent, si tel est le commandement d'Allah, alors ceux qui m'ont prêté allégeance, ceux qui ont pris l'engagement de faire briller le nom de l'Islam et du saint prophète Mohammed paix soit lui, et de propager le message de l'Islam jusqu'aux confins de la terre doivent également adopter le caractère des compagnons. Le Messie premier d'Islam explique ceci. Quel sacrifice les compagnons de notre guide parfait ont-ils consenti pour leur Dieu et pour leur messager? Ils ont été exilés, ils ont subi l'oppression, ils ont enduré toutes sortes de difficultés, ils ont donné leur vie, mais ils ont continué à avancer avec sincérité et fidélité. Qu'est-ce qui les a rendus aussi dévoués? C'est l'ardeur de l'amour divin véritable, dont la lueur avait touché leur cœur. C'est pourquoi, quel que soit le prophète auquel on les compare, l'enseignement de purification de l'âme du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, le fait de détourner ses disciples du monde, le fait de verser leur sang avec courage pour la vérité, eh bien, ce sont des exemples qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'était un sentiment de loyauté tel qu'il est impossible de trouver un exemple comparable. Le Messie premier des salam affirme que c'est la position des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran a décrit en deux phrases le tableau de leur affection et de leur amour mutuel. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire qu'il serait absolument impossible de créer cette harmonie qui existe entre eux, même si on devait donner une montagne d'or. Tu n'aurais pas pu créer cet amour et cette affection qu'Allah a placée en eux, même si tu avais dépensé des fortunes. C'est Allah qui a créé cet amour et cette affection, car il y avait de la sincérité, de la fidélité en ses compagnons, et ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour le Saint-Prophète, paix soit sur lui, et pour l'islam. Le Messie premier l'Islam explique, maintenant il y a une autre jamaat, la jamaat du Messie premier l'Islam, qui doit faire naître en elle les qualités des compagnons. Le Messie premier l'Islam nous a présenté cet exemple et nous a demandé de le suivre. Celui qui a prêté serment d'allégeance au Messie premier l'Islam doit comprendre que celui-ci est venu accomplir la mission du Messie premier l'Islam. C'est pourquoi il explique que cette communauté doit développer les qualités des compagnons. Ses compagnons formaient une communauté pure que le Coran loue à foison. Le Messie premier des salams nous demande, est-ce que vous êtes de cette trempe? Le Messie premier des salams explique, Dieu dit que le Messie sera accompagné de ceux qui seront côte à côte avec les compagnons. Ses compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, avaient donné leur bien, leur patrie sur le chemin de la vérité. Ils avaient tout abandonné. Le Messie premier l'Islam déclare, vous avez probablement souvent entendu parler de l'histoire du Siddiq Akbar, radhiyallahu anhu. Une fois, lorsqu'il fut ordonné de donner des biens sur le chemin de Dieu, il apporta tous ses biens de sa maison. Lorsque le Saint-Prophète, paix soit sur lui, lui a demandé ce qu'il avait laissé chez lui, il répondit, j'ai laissé Allah et son messager chez moi. C'était donc l'esprit ou la passion que ces personnes ont manifesté, et dont on trouve un exemple dans la vie d'Abou Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu. Le Messie premier l'Islam explique, comprenez bien que ces gens sont morts en martyrs sur le chemin d'Allah. C'est ce qui est écrit pour eux, qu'ils soient morts physiquement en martyrs ou non, qu'ils ont versé leur sang ou non, ce sont ces sacrifices qu'ils ont consentis qui leur confèrent le rang de martyrs. Il est écrit que le paradis se trouve sous les épées. Eux, ils étaient prêts à tout moment sous les épées. Mais pour nous, ce n'est pas aussi difficile, car il est dit qu'à l'époque du Mahdi, il n'y aura pas de guerre et de combat, tout comme il est dit « Wayadaul Harb ». Par conséquent, nous devons profiter de la petite opportunité de sacrifice qu'Allah nous a accordée, et nous devons tenir notre promesse de sacrifier notre vie, nos biens et notre temps pour Allah. Ayant promis au Messie premier l'Islam dans le serment d'allégeance de l'aimer plus que tout autre, car il est le représentant du Saint-Prophète Mohammed, peace soit sur lui, nous devons aussi manifester cela dans la pratique et nous devons agir en conséquence. Ensuite, le Messie premier d'Islam a prodigué de nombreux conseils à sa communauté. Il explique « J'ai des exigences pour remplir l'obligation de l'allégeance que vous m'avez prêtée. Si vous voulez remplir les obligations de l'allégeance, je vous demande d'accomplir ce qui suit. Que faut-il faire ? Vous devez lire le Saint-Coran, mais pas comme une simple histoire. Si vous voulez remplir les obligations de l'allégeance, alors la première condition est de lire le Saint-Coran, mais pas comme une simple histoire, pas comme des contes. Lisez-le en le comprenant. Lors du sermon précédent, j'ai attiré votre attention sur la lecture du Saint-Coran et j'ai également cité des paroles du Saint-Prophète Mohammed peace be upon lui. En les détaillant, le Messie promis l'Islam explique l'état de ces gens en ces termes. Il déclare « Regardez comment d'aucuns récitent le Coran avec une belle mélodie et une excellente récitation, mais cela ne dépasse pas leur gorge. La récitation est magnifique, mais ils ne comprennent pas le sens profond. Ils récitent très bien, mais ils ne connaissent pas le sens, ils ne comprennent pas la signification. Oui, ils produisent de belles sonorités avec leur gorge, ça c'est certain. » C'est pourquoi, dit le Messie promis l'Islam, le deuxième nom du Coran est Zikr, le rappel. Il est venu à cette époque primitive pour rappeler à l'homme les vérités et les dons cachés et oubliés qui sommeillent en lui. Le Saint-Coran est venu rappeler les vérités à chaque époque. En ce temps-là, comme en celui-ci, conformément à cette promesse infaillible d'Allah, en ce temps aussi, un enseignant est venu du ciel. Car Allah annonce dans le Saint-Coran « Wa inna lahu lahafizun » Nous en sommes les gardiens. Un enseignant est venu et Allah lui-même affirme dans le Saint-Coran que nous sommes les gardiens du Coran. Et cet enseignant est l'incarnation et la réalisation de la déclaration du Coran d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui qui vous est promis et c'est lui-même qui s'adresse à vous. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Je reviens à la prophétie du Saint-Prophète, paix soit sur lui, qui a prédit à propos de cette même époque que les gens liraient le Coran, mais que le Coran ne descendrait pas plus bas que leur gorge. Mais nous opposons, non, ceux qui ne chérissent pas les promesses d'Allah. Il ne s'agit pas seulement des opposants, mais ceux qui ne chérissent pas les promesses d'Allah. Il s'agit de ceux qui nient complètement les promesses d'Allah et qui ne prêtent pas attention aux paroles du messager d'Allah. Ce sont des gens qui prétendent connaître le Coran, mais qui n'agissent pas en conséquence. Le Messie premier Islam explique « Le plus regrettable est que si quelqu'un tente de les conseiller, ils ne font aucun effort pour comprendre. S'ils reçoivent un conseil d'une personne bienveillante qui leur porte de l'affection et de l'attention et qui tente de leur expliquer un point, ils ne font pas l'effort pour comprendre. » Le Messie premier Islam ajoute, bien sûr, si vous ne voulez pas essayer, ne le faites pas, mais ayez au moins la courtoisie d'écouter ce qu'il a à dire. Ne vous opposez pas à lui sans raison. Il explique, mais pourquoi écouter? C'est bien leur malheur qu'ils ne puissent même pas entendre, car il faut avoir une oreille attentive pour entendre. Il faut avoir la capacité d'entendre, il faut avoir des oreilles qui écoutent pour pouvoir entendre. Il faut aussi faire preuve de patience, il faut avoir de bonnes intentions. Allah nous demande d'agir avec patience et avec de bonnes intentions, mais eux, ces gens-là, ne veulent tout simplement pas s'y conformer. Ils cherchent tout simplement à s'opposer. Le Messie premier l'Islam explique « Si Dieu, par sa grâce, ne s'était pas tourné vers la terre, à l'instar des autres religions, l'islam serait perçu en cette époque comme mort et un simple conte. » Le Messie promet l'islam ajoute, « Aucune religion morte ne peut donner la vie, mais l'islam est prêt à présent à donner la vie. Cependant, comme c'est la tradition de Dieu, il n'accomplit aucune œuvre sans cause. Bien sûr, il est possible qu'on ne perçoive pas ses causes. Quoi qu'il en soit, Dieu utilise des intermédiaires, qu'ils soient visibles ou non. Mais il ne fait aucun doute que des causes existent nécessairement. De même, des lumières descendent du ciel qui, en atteignant la terre, prennent la forme de causes. La lumière que Dieu a fait descendre se transforme en différentes formes, en différents intermédiaires. Cette lumière devient la cause de l'accomplissement de cette œuvre. Le Messie premier l'Islam explique Dieu a trouvé l'époque du Saint-Prophète, paix soit sur lui, plongé dans les ténèbres, dans l'égarement, et que de tous côtés, une épaisse obscurité d'égarement et d'oppression s'était abattue sur le monde. C'est à ce moment-là, afin de dissiper ces ténèbres et transformer l'égarement en guidance et en bonheur, qu'un soleil lumineux a brillé sur les sommets de Paran, c'est-à-dire que le Saint-Prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Je suis venu en cette époque pour raviver la lumière qui a brillé autrefois, une lumière que le passage du temps, les actions des érudits et des hommes et des musulmans ont tenté d'affaiblir. Mais cette lumière ne s'est jamais éteinte. Dieu m'a envoyé pour que je dise au monde que cette lumière brille encore. Mais comment la voir? Voyez cette lumière à travers mes yeux. Dieu m'a désigné comme un moyen, je suis de Dieu, que vous m'acceptiez ou non. C'est votre décision, il ne fait aucun doute que moi, quant à moi, j'ai été envoyé par Dieu, et j'en ai une foi absolue, tout comme mes disciples, déclare le Messie promis d'Islam. Allah, le Tout-Puissant, m'a envoyé à cette époque, sous la servitude du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis d'Islam explique que le mouvement qui sera établi par Dieu pendant la période d'opposition à l'Islam sera le mouvement du Messie promis d'Islam. Le mouvement qui sera établi pour briser cela et pour la renaissance de l'Islam sera le mouvement du Messie promis d'Islam. C'est pourquoi, dans les hadiths, Dieu a nommé le Messie promis d'Islam par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le briseur de la croix, car il est vrai que chaque mujaddid, chaque réformateur vient pour réformer les troubles de son époque. Réfléchissez un instant au nom de Dieu, dit le Messie promis d'Islam, et vous allez constater que pour défendre la rédemption par la croix, un travail immense a été accompli par la plume et par la parole. À tel point que si l'on parcourait toutes les pages de l'histoire, l'on ne trouverait jamais une telle ferveur en faveur de l'adoration erronée à une autre époque, quand les écrits des partisans de la sédition de la croix ont atteint leur apogée. Le christianisme était partout puissant à l'époque, et beaucoup plus qu'à l'époque actuelle, comme je l'ai déjà mentionné. Et la propagation du christianisme s'étendait partout dans le monde, et les musulmans tombaient également dans les bras des chrétiens. Jamais auparavant, un tel prosélytisme n'a été mené avec une telle intensité qu'à l'époque du Messie promis alayhi salam. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant a envoyé le Messie promis alayhi salam pour y répondre. Le Messie promis alayhi salam affirme « Des attaques brutales et oppressives ont été menées contre le véritable monothéisme, la chasteté, l'honneur et la véracité du Saint-Prophète, paix soit sur lui, et le caractère divin du livre d'Allah. La jalousie de Dieu ne devrait-elle pas exiger qu'il envoie en ce moment celui qui brise la croix? Les circonstances exigent que celui qui doit briser la croix descende conformément à la promesse d'Allah. Bien que la chrétienté n'ait plus la même force à l'époque actuelle que nous traversons, il reste un fait que les attaques contre la chasteté, contre l'honneur et la véracité du Saint-Prophète, paix soit sur lui, sont toujours menées, et les attaques contre le Saint-Coran sont également menées. Et aujourd'hui, partout, différents types de personnes commettent des actes inconvenants et font preuve d'insolence, qu'ils soient des athées, des gens sans religion opposés à l'islam, ou qu'ils appartiennent à une religion quelconque. Ils sont tous à l'avant-garde dans ce domaine. Et aujourd'hui encore, c'est le travail de la communauté du Messie promis alayhi salam de briser la tête de ces gens et de leur donner des réponses argumentées et de révéler au monde l'honneur, la chasteté et la véracité du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui et de jouer un rôle majeur dans la protection du Saint-Coran. Le Messie promis alayhi salam demande: croyez-vous que Dieu a oublié sa promesse « Inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est-à-dire, nous avons envoyé le rappel et nous en sommes les gardiens. Assurément, souvenez-vous que les promesses de Dieu sont véridiques. Allah a fait cette promesse. Il a fait la promesse qu'il va protéger le Coran et Allah est fidèle à ses promesses. Il a envoyé un avertisseur dans le monde conformément à sa promesse. Le monde ne l'a pas accepté, mais Dieu l'acceptera certainement et manifestera sa véracité par des assauts puissants. En vérité, je vous le dis, je suis venu en tant que Messie promis, conformément à la promesse de Dieu le Tout-Puissant. Accepte-le si le voulez, rejete-le si vous le voulez, mais votre rejet n'y changera rien. ce que Dieu a décidé va se réaliser, car Dieu a déjà déclaré dans Brahin Ahmadiyya, Sadaqallahu wa Rasuluhu wa kana wa'dan mafoula. Ce que Dieu le Tout-Puissant et son messager ont dit était vrai et cette promesse devait absolument se réaliser. Il est donc inévitable que la véracité du Messie promis d'Islam se répande dans le monde. Elle devait se répandre et elle se répandra, car il est venu en tant que serviteur du Saint-Prophète Mohammed Peace soit lui pour propager sa religion, la dernière religion au monde. Et Dieu l'a établie et elle doit se répandre dans le monde, que les siens ou les autres s'y opposent ou non. Leur opposition finira par être vaine et infructueuse. Le Messie promis d'Islam explique « Vous demandez pourquoi je suis venu ?» En effet, beaucoup de musulmans formulent des objections à propos de l'avènement du Messie promis d'Islam. Il explique « Dites-moi vous-même si les actions des musulmans exigeaient ou non qu'un réformateur vienne. » Les mollahs font grand bruit à propos du fait que le Messie promis d'Islam s'est annoncé. Qu'ils examinent donc leurs propres actions. Leurs actions sont éloquentes. Le Messie promis d'Islam déclare à ce propos « Si les actions de ceux qui se disent musulmans sont réellement des actions pieuses, pourquoi n'en produisent-elles pas les résultats purs et bienfaisants ?» Il explique que ces gens ne comprennent pas et ils affirment « Qu'est-ce qui en nous est contraire à l'islam ? Nous proclamons la ilaha illallah, nous accomplissons la salat, nous jeûnons pendant les jours de jeûne et nous offrons la zakat. » Mais le Messie promet d'Islam explique « Moi, je dis que toutes leurs actions ne sont pas véritablement des actions pieuses, mais plutôt comme une simple écorce, une coquille vide sans noyau. Sinon, si ces actions sont véritablement pieuses, pourquoi ne produisent-elles pas leurs fruits ? Allah, le Tout-Puissant, a promis qu'il produirait les résultats des actions pieuses. Pourquoi cela ne se produit-il pas ? L'état lamentable des musulmans à cette époque ne montre-t-il pas qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des lacunes, qu'il y a des défauts qui empêchent les promesses d'Allah de se réaliser. Le Messie promis d'Islam explique que les actions pieuses ne peuvent être telles que si elles sont exemptes de toute corruption et de mélange. Mais où sont ces qualités dans les actions de ces musulmans ? Ils font ces revendications que nous prions, nous jeûnons, mais il n'y a aucune piété. Examinez-vous vous-même et vous saurez si ces défauts existent en vous ou non. Ensuite, le Messie promis d'Islam explique que l'époque actuelle réclamait un réformateur et c'est même leur cri de ralliement aujourd'hui. Certains lancent ce slogan, notamment qu'il devrait y avoir un réformateur. Compte tenu de l'état des musulmans, quelqu'un devrait venir pour les former, disent-ils. Mais celui qu'Allah a envoyé, ils ne veulent pas le reconnaître. Ainsi, il explique que la manière dont les chrétiens attaquent ou les adeptes d'autres religions lancent des attaques ou que les athées lancent des attaques et la manière comment les musulmans eux-mêmes sont pris dans la tourmente de ces attaques, s'éloignant eux-mêmes de la religion, tout cela exige la présence d'un réformateur qui les guidera sur le droit chemin. Dieu le Tout-Puissant m'a désigné et envoyé à cette époque en tant que réformateur. Il explique que les musulmans auraient dû, dans de telles circonstances, même sans aucune preuve à ma disposition, chercher frénétiquement pourquoi le Messie n'est pas encore venu. Même si je ne fournis aucune preuve, ils auraient dû le chercher eux-mêmes en observant l'état du monde. Ils n'auraient pas dû m'appeler pour leur querelle, car la tâche de ce réformateur est de briser la croix. Quand le Messie devait venir, il devait réfuter le christianisme, il devait réfuter les athées, il devait réfuter les sans-religions, et c'est ce dont le monde a besoin. C'était nécessaire lorsque le Messie promis d'Islam a fait son annonce, et c'est toujours une nécessité aujourd'hui. C'est pourquoi il a déclaré que celui qui viendra s'appellera le Messie promis. Si les mollahs se souciaient réellement du bien-être et de la prospérité de l'humanité, ils ne se comporteraient pas de la manière dont ils le font avec moi. Ils auraient dû réfléchir aux conséquences de leur fatwa contre moi. Qui peut empêcher ce que Dieu a décrété ? Ces gens s'opposent à nous et ces gens sont en fait nos serviteurs. D'une manière ou d'une autre, ils diffusent notre message en Orient et en Occident. Cette opposition elle-même est un message et leur opposition est pour nous une très grande source de propagation. Donc ces gens peuvent bien s'acharner autant qu'ils le veulent pour détruire la communauté du Messie promis l'Islam, mais plus ils s'acharnent, plus cela devient une source d'expansion pour la Jamaat du Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam explique: Allah le Très-Haut est plus miséricordieux qu'une mère tendre. Il ne veut pas que sa création soit perdue. Il ouvre devant vous les chemins de la guidance et de la lumière, mais il vous appartient de les emprunter en faisant usage de votre raison et en purifiant vos âmes. Tout comme la terre ne peut être ensemencée tant qu'elle n'a pas été labourée et préparée, de même, tant que l'âme n'est pas purifiée par l'effort et la discipline spirituelle, la sagesse pure ne peut descendre du ciel. En cette époque, Dieu a manifesté une grande faveur et, jaloux de soutenir sa religion et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il a envoyé un homme qui parle parmi vous afin qu'il appelle les gens vers cette lumière. S'il n'y avait pas eu tant de corruption et de sédition dans le monde, et si les efforts déployés pour effacer la religion n'avaient pas été si intenses, cela n'aurait pas été aussi grave. Mais vous voyez maintenant que de tous côtés, à droite comme à gauche, toutes les nations sont engagées dans une entreprise visant à éradiquer l'islam. Et aujourd'hui, elles s'y emploient avec encore plus de vigueur. Et si l'islam ne rencontrait pas d'opposition, il n'y aurait pas eu besoin que le Messie promis l'islam soit suscité. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, depuis sa revendication, il y a 136 ans de cela, cette situation n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le Messie promis l'islam déclare: « Vous m'accusez d'avoir ouvert un magasin, d'avoir lancé une entreprise. Je n'ai pas lancé d'entreprise. » Le travail du Messie promis est de répandre la religion et de s'occuper des affaires religieuses. Oui, s'il faut absolument donner un nom à cette activité, il s'agit d'une activité religieuse. Il explique: « Si vous me demandez la vérité, sachez alors que, du point de vue des affaires du monde, eh bien, nous sommes comme morts. Notre situation est comparable à celle des morts en ce qui concerne les affaires terrestres. Nous sommes entièrement dédiés à la religion, tout comme notre entreprise est religieuse, comme il en a toujours été en islam avec les aînés et les imams. Et je n'invente pas de nouvelles voies, mais je cherche à éloigner les gens d'une approche de la foi qui, par bien des aspects, est dangereuse pour eux. Je veux éradiquer ces croyances dangereuses. Je veux les extirper des cœurs. C'est donc là mon intention et mon objectif principal, car certaines innovations néfastes se sont insinuées dans la religion. Certaines croyances erronées sont apparues au sein de l'islam. Nous devons en protéger et le monde et les musulmans et faire prévaloir la véritable religion, celle qui est enseignée dans le Saint-Coran. Et c'est le but de ma venue. De même, je dévoilerai la vérité sur les autres religions qui sont de fausses religions. Le Messie promis l'Islam ajoute: « Je dois aussi dévoiler la vérité sur les autres fausses religions. Ceci est mon objectif. Mon objectif est de montrer la lumière islamique. Mon objectif est d'établir le rang et la position du saint prophète, paix soit sur lui, dans le monde. » Il explique à propos du statut du saint prophète, paix soit sur lui: « Souvenez-vous que, par l'envoi du livre sacré, c'est-à-dire le Saint-Coran, et par la mission du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Allah a voulu montrer au monde un exemple de miséricorde grandiose. La mission du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est un exemple de miséricorde grandiose, tout comme il l'a dit: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour le monde. De même, l'objectif du Coran est Hudal lil mutakin, c'est-à-dire un guide pour les pieux. Ce sont là des objectifs si grandioses qu'on ne saurait trouver leur équivalent. C'est pourquoi Allah a voulu que, de même que tous les mérites épars chez les prophètes furent rassemblés dans l'existence du messager d'Allah, de même toutes les qualités et tous les mérites disséminés dans divers livres furent rassemblés dans le Saint-Coran. De la même manière, tous les mérites présents dans les diverses communautés furent rassemblés dans cette communauté. Ainsi Dieu veut que nous acquérions ces perfections. Et il ne faut pas oublier que, tout comme il souhaite nous accorder ces immenses perfections, il nous a également donné des facultés en conséquence. Car si nous n'avions pas reçu des facultés appropriées, nous n'aurions pas pu en aucune façon acquérir ces perfections. Maintenant qu'Allah nous a donné des facultés, nous a instruits et exposé ce but, il nous incombe de faire tous les efforts possibles pour les atteindre. C'est ce que le Messie promet l'Islam explique en disant « Ceci est le but de mon avènement, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ». En enseignant cela, il ajoute « Alors réfléchissez à ces choses et voyez comment nous pouvons propager l'enseignement du saint prophète, paix soit sur lui, et la loi qu'il a apportée en ce monde au lieu de m'opposer ». Il ajoute « Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le prophète parfait. Allah nous a offert un prophète qui est le sceau des prophètes, le sceau des arifines, le sceau des prophètes. De même, il lui a révélé un livre qui est le compendium des livres et le sceau des livres. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui est le sceau des prophètes, et la prophétie a pris fin avec lui. Cette prophétie n'a pas pris fin comme si elle avait été étouffée. Une telle fin n'est pas source de fierté, mais plutôt l'idée que la nabouwa s'est achevée sur le saint prophète, paix soit sur lui, signifie que, naturellement, les perfections de la nabouwa se sont achevées en lui, c'est-à-dire toutes les perfections distinctes qui ont été accordées au prophète depuis Adam jusqu'à Jésus, fils de Marie, certaines à l'un et d'autres à un autre, toutes ces qualités ont été réunies dans le saint prophète, paix soit sur lui, et par nature, il est devenu le sceau des prophètes. De même, tous les enseignements, les préceptes et les connaissances qui ont été envoyés dans différents ouvrages ont abouti au Saint-Coran, et le Saint-Coran est devenu le sceau des Écritures. Ainsi, il déclare, il faut se rappeler aussi que l'accusation qui nous est faite à moi et à ma Jamaat de ne pas considérer le Saint-Prophète comme le sceau des prophètes, eh bien ceci est une immense calomnie. Avec la force de conviction, de connaissance et de perspicacité avec laquelle nous croyons et sommes convaincus que le saint prophète est le sceau des prophètes, même un cent millième de cela n'est pas cru par les autres et ils n'ont pas une telle capacité. Ils ne comprennent pas la réalité et le secret qui réside dans le sceau de la prophétie, du sceau des prophètes. Ils ont tout simplement entendu un mot de leur ancêtre et ils en ignorent la réalité. Et ils ne savent pas ce qu'est le sceau de la prophétie et ce que signifie y croire. Mais avec une perspicacité parfaite qu'Allah connaît mieux, nous croyons avec certitude que le saint prophète, paix soit sur lui, est le sceau des prophètes. Et Dieu nous a révélé la réalité du sceau de la prophétie d'une manière telle que grâce au nectar de cette connaissance qui nous a été donnée à boire, nous trouvons un plaisir particulier que personne ne peut évaluer, sauf ceux qui se sont désaltérés à cette source. Tel est l'enseignement apporté par le Messie promis l'Islam, tel est son statut et l'objectif avec lequel il était venu, et pour lequel il avait établi cette Jamaat, et pour lequel il a ordonné à la Jamaat de consentir des sacrifices, de transmettre ce message au monde, et de répandre la religion du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui dans le monde entier, et de ne pas se reposer, tant que vous n'aurez pas établi le règne du saint prophète paix soit sur lui dans le monde, tant que vous n'aurez pas établi le règne d'Allah l'unique en ce monde, tel était le but de l'avènement du Messie, telle est l'importance de cette religion. Si nous comprenons l'importance de cette religion et si nous nous considérons comme honorant notre engagement d'allégeance, alors nous devons également réfléchir à ces points. Et lorsque nous allons accomplir cette tâche, nous allons atteindre l'objectif de notre vie, et nous allons réaliser le but de notre Bayra, et nous atteindrons la proximité d'Allah et son plaisir. Durant ces jours du Ramadan, par la prière, en augmentant notre connaissance, en apprenant davantage sur le Saint-Coran, et en transmettant pratiquement le message, nous devons nous investir dans ce travail, afin que nous puissions aussi vite que possible devenir ceux qui vont hisser le drapeau du Saint-Prophète, paix soit lui dans ce monde, ceux qui vont amener le monde à s'incliner devant Allah l'unique. Qu'Allah nous en accorde la possibilité et qu'Allah nous accorde le succès dans cette entreprise. Je vous demande de prier pour les Ahmadis du Pakistan. Qu'Allah leur facilite les choses. Ces jours-ci, les opposants déploient tous leurs efforts pour leur causer toutes sortes de difficultés, que ce soit au nom des minarets des mosquées, au nom des mihrabs ou en raison de la swala, quel que soit le prétexte ou l'expédient qu'ils trouvent. Leur objectif est de nuire aux Ahmadis. Qu'Allah les protège tous. De manière générale, prions également pour la Oumma musulmane. Qu'Allah leur accorde la sagesse et la compréhension à ces musulmans. Qu'Allah améliore leur situation et qu'Allah leur fasse miséricorde. Un nouveau cycle d'oppression a recommencé contre les Palestiniens. qui sont musulmans. Qu'Allah le Tout-Puissant les protège également de cette oppression et qu'Allah leur fasse miséricorde.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر